gloire. Il est le roi des rois.
Ah, voilà. Bonjour à tous. Tous. OK, il y a des humoristes dans la salle. C'était très tendu, d'ailleurs. OK. On va commencer dans deux petites minutes. Un, deux. Super. Si jamais il y en a qui pouvaient trouver la contrebasse, s'est fait voler une partie de son instrument. Fait qu'il nous reste juste un manche. Si quelqu'un pouvait nous trouver ça, ça serait pratique. C'est une joke de mon oncle. Oh, Jean-Pierre, il est là, justement, quand on parle du loup, du bassiste. Alors, ce matin, on parle de la sanctification, la doctrine de la sanctification. Et c'est intéressant qu'on arrive à cette doctrine-là à ce moment-ci parce qu'on vient de terminer dans nos prédications dimanche matin, Romains 6, 7, 8, qui aborde intimement cet enjeu-là. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est gracié, une fois qu'on est justifié, une fois qu'on est déclaré juste? Et c'est vraiment ça qu'on aborde ici dans ce chapitre-là. On va aller dans un mot de prière, puis on va débuter. Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre ensemble à étudier ta parole. Seigneur, tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Bien, nous poursuivons, Seigneur, cet effet. Nous désirons que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Et ce matin, on parle justement de ce fruit particulier de l'Évangile en nous, qui est celui de la sanctification. Je te prie, Père, de nous éclairer pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet aspect du salut, cet aspect de l'Évangile, cette doctrine. Viens éclairer dans la compréhension, mais surtout, Seigneur, viens nous disposer à poursuivre cette sanctification, à vraiment se soumettre à ton esprit, à collaborer avec ton esprit, à marcher dans la plénitude de ton esprit afin de porter le fruit de l'esprit, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour. Seigneur Jésus, tu t'es lié à nous pour l'éternité. En nous sauvant, non seulement tu nous as pardonné, mais tu nous as donné ton Esprit Saint. Mais Seigneur, on est reconnaissant pour cette alliance éternelle que tu as faite avec chacun d'entre nous, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, vous avez les notes à l'entrée. Si c'était possible de fermer les portes d'entrée, s'il vous plaît, Monica ou Ernest ou José. Merci beaucoup. Alors, la sanctification. Est-ce qu'on a un micro qui va pouvoir circuler pour répondre à des questions, Monsieur Dave, Roy, oui, Yuri, merci. Je suis au haut de la page 2. La sanctification est l'œuvre continue de la grâce de Dieu par laquelle il rend réellement son peuple de plus en plus conforme à Jésus. On pourrait s'arrêter là, c'est une bonne définition de ce que c'est la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre continue de la grâce de Dieu par laquelle il rend réellement son peuple de plus en plus conforme à Jésus-Christ. C'est vraiment penser à des passages jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est vraiment cette idée-là qui est présente. En affaiblissant le péché et en faisant croître une vie nouvelle de sainteté. Elle n'est ni optionnelle, ni instantanée. La définition est excellente. Il y a toutes les nuances qu'on va développer, qu'on va expliciter ensemble. Mais progressive, profonde et concrète dans toute la vie chrétienne. Est-ce qu'il y en a pour qui la notion de sanctification est nouvelle? Juste pour que je vois un peu à qui je m'adresse. Vous êtes familier avec cette notion-là? Ça va? Donc, lorsqu'on va parler du salut, quand on essaie de comprendre ce qui se produit dans le salut, au-delà de l'acte historique par lequel Jésus vient, s'incarne, meurt sur la croix, on va célébrer Pâques, ressuscite d'entre les morts, ça, c'est l'acte extérieur qui est en train de se produire. C'est l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ. Maintenant, à celui qui place sa foi dans le sacrifice, premièrement, en Jésus comme étant le sauveur des hommes, deuxièmement, dans son sacrifice à la croix, dans sa résurrection. Mais là, il y a toute une autre œuvre qui se produit à ce moment-là, en chaque individu. Et un aspect de ça, c'est la justification. Donc, Romains 1, 2, 3, 4, 5, c'est toute cette notion qu'on est justifié par la foi, non par les œuvres. D'accord? Maintenant, ça, c'est une dimension très extérieure à nous. Dans le sens que c'est quelque chose que Dieu déclare sur nous. Dieu déclare que je suis juste. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes familier avec toute la notion du juste dans le livre des Proverbes. Vous êtes familier avec le livre des Proverbes? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre le juste des Proverbes et la justification selon Paul? Là, pour l'instant, c'est toi mon runner. Peut-être qu'on a un runner qui... Aussi, ou Jean-Pierre, ou quelqu'un apporte le micro à ceux qui veulent parler. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer pour définir un peu la différence entre le juste des Proverbes? Vous voyez ce que je veux dire quand je parle du juste des Proverbes? Ça revient souvent, voici comment le juste agit. Et la notion de justification selon Paul. Est-ce que j'ai un brave ou je désigne un brave? Une brave, je peux désigner une brave. On a des bonnes théologiennes ici. Là. Pardon? Oui, c'est sûr, il n'y a plus personne qui me regarde. Miguel, est-ce que tu viendrais à notre secours? Si tu veux aller porter le micro à Miguel juste derrière. Merci.
C'est ce qui s'appelle se faire mettre en spot. Dans la livre de Proverbes, premièrement, le juste, bien, il personnifie. Il parle dans les rues. Et on parle également d'une sagesse qui est révélée. Donc, c'est une justice qui. Voici ce qu'est la justice. On donne une définition, une espèce de. Exactement, une définition de ce qu'est la justice. Alors que la justification, bien, dans les livres dans l'Épître aux Romains, c'est Paul qui dit à l'être humain, voici comment vous pouvez être justifié. C'est par la justification, évidemment, ça passe à travers tout le message de l'Évangile. Alors, il y a une progression dans la Bible au niveau, voici ce qu'est la justice. Maintenant, voici comment vous pouvez être justifié.
OK, merci, Miguel. Donc, dans le livre des Proverbes, il nous est dit, si tu marches selon la justice, tu vas agir ainsi. Et on reconnaît des gens qui sont généralement des justes. C'est des gens qui font le bien. Dans le livre des Proverbes, le juste est opposé à l'insensé, il est opposé au colérique, il est opposé à la femme qui fait du commérage ou qui est querelleuse, il est opposé à la folie, d'accord? Donc, tu as la folie puis tu as la sagesse dans le livre des Proverbes. Celui qui marche selon la sagesse est présenté comme un juste. S'il est appelé un juste dans le livre des Proverbes, ça ne veut pas dire que devant Dieu, il est parfaitement juste. Donc, le juste des Proverbes pourrait probablement pas, en fait, j'oserais dire, ne pourrait pas du tout, se présenter devant Dieu et dire à Dieu, « Regarde Dieu, moi j'agis selon la sagesse, donc je peux entrer au ciel. » Non, c'est ça le point que Paul développe dans Romains 1, 2, 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Juste dans le sens de parfaitement juste devant Dieu. Donc, il y a un comportement de justice qu'on doit poursuivre. Et il y a une justice parfaite qui nous est donnée, imputée par Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Vous voyez la nuance entre les deux? Oui? Non? Presque? C'est vraiment important parce que la sanctification cherche à produire en celui qui a été déclaré juste le comportement de la justice. Donc, celui qui a été déclaré juste devant Dieu par l'œuvre de Christ, c'est complètement extérieur à moi. Ça m'est donné, c'est une grâce entière. J'ai rien fait, j'ai juste cru. Maintenant, Dieu va chercher à me transformer et il va me transformer par l'œuvre de son esprit et je vais agir de plus en plus comme le juste des Proverbes. D'accord? Donc, il y a ces deux idées-là. Là. Il y a deux justes, il y a deux justices. La justice parfaitement donnée par Dieu, justification, et la justice produite en nous une œuvre de justice, une œuvre de discernement où je vais choisir de faire ce qui est juste de plus en plus. Et là, dans le langage du Nouveau Testament, on parle beaucoup plus de la sanctification. C'est ça qui est abordé ici. Donc, je vous relis la définition à la lumière de ce que je viens de dire. La sanctification, je suis au haut de la page 2 dans les notes, la sanctification est l'œuvre continue de la grâce de Dieu par lequel il rend réellement, donc dans les faits, dans nos actions, de plus en plus, son peuple de plus en plus conforme à Jésus-Christ. Bien, Jésus-Christ, c'est le juste par excellence. Jésus-Christ est la sagesse du livre des Proverbes. Il incarne parfaitement ça. Ça vient de lui, ça émane de lui. Maintenant, l'œuvre de sanctification, c'est l'œuvre par laquelle Dieu va nous rendre de plus en plus conforme, de plus en plus conforme à Jésus-Christ, affaiblissant le péché, les œuvres des injustes, et en faisant croître une vie nouvelle de sainteté en nous. Chose qui nous était impossible avant, parce que nous sommes tous pécheurs par nature, avec cette nouvelle nature qui nous est donnée, l'Esprit-Saint qui vient en nous, progressivement, elle va affaiblir le péché et faire croître une vie nouvelle de sainteté. Elle n'est ni optionnelle ni instantanée. On va développer ça ensemble ce matin. Super important. Si elle est optionnelle, on tombe dans une fausse doctrine, on s'éloigne de l'Évangile. Si elle est instantanée, on tombe dans une fausse doctrine, on s'éloigne de l'Évangile. Non, la sanctification n'est ni optionnelle ni instantanée, mais progressive, profonde et concrète dans toute la vie chrétienne. Pensez à tous les passages dans les lettres du Nouveau Testament où les auteurs nous disent « il devrait y avoir ça dans ta vie, il devrait y avoir telle sainteté. Sans la sanctification, personne n'héritera du royaume des cieux. Elle n'est pas optionnelle. Elle est là, elle est réelle. Et donc, c'est pour ça que je dis des fois, pas à la blague, très sincèrement, chaque fois que je lis un Jean, j'ai un moment où je dis, mais ma foi, est-ce que je suis chrétien? Parce qu'un Jean va mettre le standard, l'exigence de la justice qui doit être le fruit de l'esprit dans ma vie. Marcher selon la justice de Dieu. Puis après ça, Jean me console, puis il me rappelle qu'on est sauvé par grâce et qu'en fait, tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Donc, elle est progressive. L'objectif global du cours, comprendre la doctrine biblique de la sanctification afin de voir que la vie chrétienne ne se limite pas au pardon reçu à la conversion, hein, qui fait qu'on est déclaré juste, mais comprend aussi ce processus continu de transformation par la grâce, la parole et l'Esprit de Dieu. Processus de transformation par la grâce, par la parole et par l'Esprit de Dieu. Saisir comment cette doctrine nouvelle renouvelle notre compréhension de l'obéissance, de l'Église, des relations, de l'épreuve et de la vie quotidienne. La sanctification vient s'appliquer dans tous ces domaines-là, dans nos relations dans l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que la sanctification. Par exemple, une des pires choses que tu peux faire à quelqu'un, c'est de l'excommunier de la communion de l'Église, lui refuser d'être en communion avec l'Église. Paul va décrire ça comme l'équivalent de livrer à Satan. Parce que l'Église, par la communion des saints, lorsqu'on se réunit ensemble, je ne parle pas de prendre le repas du Seigneur, là, je parle juste de côtoyer des chrétiens régulièrement, participe à l'œuvre de sanctification dans ma vie. Donc, la sanctification a des implications concrètes dans mon quotidien, dans nos relations dans l'Église, dans mon rapport avec le monde. On va voir ça ensemble. Je saute les objectifs spécifiques de la leçon. Vous pourrez aller prendre le temps d'aller les lire. Définition et nature de la sanctification. La sanctification, selon la doctrine chrétienne, concerne ceux que Dieu a efficacement appelés et régénérés. On s'en va dans du langage de théologie, d'accord? Donc, ceux qu'il a appelés et qui régénérés sont nés de nouveau. Donc, ils ont un cœur nouveau. C'était tout le dilemme de l'Ancien Testament où les prophètes disaient, mais ma foi, puis on va en parler ce matin dans Romains 9, où les prophètes disaient, mais les Juifs ont tout reçu, ils ont la loi, ils ont l'alliance, ils ont été appelés de Dieu, ils ont tous les préceptes, ils ont la relation avec Dieu grâce à l'alliance, et pourtant, ils passent leur temps à s'éloigner de Dieu. Puis là, les prophètes disent, un jour vient où Dieu donnera un cœur nouveau. Dieu donnera un cœur nouveau, c'est la régénération. La sanctification concerne ceux que Dieu a efficacement appelés. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, efficacement appelés, ceux qui ont répondu à cet appel-là, et régénérés. Elle est l'œuvre réelle et personnelle de Dieu en nous, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On va y revenir. La méditation de la mort et de la résurrection de Jésus est centrale à notre sanctification. Romains 6, premier chapitre de la Bible que j'ai mémorisé au début de ma vie chrétienne. Romains 6 au complet. Wow, parce que je comprenais tellement que j'avais besoin de saisir ça puis de me l'approprier. Elle est l'œuvre réelle et personnelle de Dieu en eux, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle s'opère par la parole de Dieu et par l'Esprit qui habite dans le croyant. Elle implique la destruction progressive de la domination du péché et la croissance réelle dans la sainteté. Sans cette sainteté, nul ne verra le Seigneur. Donc, dans un sens, lorsque je suis justifié, aux yeux de Dieu, je suis déclaré saint. Saint de deux manières. Pur devant Dieu, malgré le fait que je pêche encore. Et saint dans le sens que je suis consacré, je suis mis à part pour Dieu. D'accord? Maintenant, cette sainteté-là va se manifester par ma sanctification, par une croissance dans la sainteté. Et donc, lorsqu'un chrétien voit qu'il est en train de s'engourdir, hein, le péché qui nous endort si facilement, lorsqu'un chrétien voit qu'il devient très tolérant face à certains péchés, lorsqu'un chrétien voit qu'il n'y a plus une soif de la parole de Dieu, lorsqu'un chrétien voit que la présence des chrétiens lui est moins agréable que la présence des non-chrétiens qui vivent selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et encore une fois, j'ai plein de non-chrétiens avec qui j'aime énormément passer du temps. Ce n'est pas à ça que je fais allusion. Mais les conversations ne sont pas les mêmes. Les sujets qui nous emballent ne sont pas les mêmes. Les passions ne sont pas les mêmes. Mais lorsqu'un chrétien commence à expérimenter cela, Il devrait s'interroger sur sa sanctification. Où est-ce que je suis? Est-ce que je marche généralement rempli de l'Esprit? Ou est-ce que je suis en train d'attrister, d'éteindre, voire même l'Esprit? Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Transforme-les, consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est la prière de Jésus pour nous. Jésus demande ça à Dieu pour nous. Quand vous demandez qu'est-ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il nous est dit qu'il intercède pour nous actuellement, il prie pour l'Église. Il prie pour qu'elle persévère, qu'elle soit fidèle, qu'elle ne flanche pas, qu'elle ne soit pas entraînée par le monde, qu'elle ne renie pas son nom devant les persécutions. Il prie pour l'unité. Il prie pour l'unité dans l'Église. Il prie pour qu'on soit transformé par sa parole. Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et donc, quelqu'un qui ne porte pas de fruits devrait s'interroger. Puis en fait, lorsque vous voulez comprendre un peu c'est quoi toute la notion de la discipline ecclésiastique, on a eu une réunion de membres, on a nommé entre membres des gens pour qui on vous a demandé de prier. Puis on a dit, on est profondément inquiet pour leur salut. Quand l'Église fait ça, qu'est-ce qu'elle fait? On va dire, elle juge. Oui, Jésus a dit, hein, faut juger ceux de l'intérieur. OK, ça va. Mais en même temps, c'est pas qu'on juge pour mépriser, pour rejeter. Non, l'Église est là pour dire à quelqu'un qui se dit frère, qui se dit sœur, écoute, à nos yeux, tu ne devrais pas être en paix avec ton éternité. C'est littéralement ça, la mise sous discipline. C'est un moment où l'Église s'accorde pour dire à une personne, tu ne devrais pas être en paix avec ton éternité, parce que lorsque nous, qui péchons, mais sommes sauvés par grâce, lorsque nous, on regarde ta vie, on ne voit pas cette grâce-là. Par ta persévérance dans un péché, par exemple. Ça a du sens, ce que je dis? Voyez, et donc, une Église qui ne pratique jamais la discipline ecclésiastique ne prend pas bien soin des gens de cette Église-là parce qu'elle ne prend pas à cœur de dire, « Hey, l'Église, êtes-vous en paix avec tel frère ou est-ce qu'on devrait encore lui prêcher l'Évangile? » C'est littéralement ça. Non, on n'osera pas aller là parce que c'est inconfortable, parce que, bien sûr que c'est inconfortable. Moi, le premier, je suis de toutes les mises sous discipline dans cette Église depuis plus de 30 ans. C'est très inconfortable. Mais c'est un acte d'amour. Et donc, c'est très, 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 très rare. Ça m'est arrivé une fois peut-être que quelqu'un m'a dit, alors qu'on était en train de le mettre sous discipline, qu'il ne ressentait pas son amour pour lui ou pour elle. C'est très rare. Parce que c'est un acte d'amour, c'est pas un acte de dédain, de mépris, de... Oui, bien sûr, si la personne persiste dans le péché, une dimension de la discipline, c'est de dire, on veut pas que tu sois une mauvaise influence dans l'Église. Et si en plus, c'est un faux docteur qui cherche à détruire l'Église, on va être encore beaucoup plus sévère. Et souvent, notre discipline est très drastique. Il m'arrive de retourner des gens à la porte. Un dimanche matin, ils se présentent, ils viennent me voir, ils commencent à me dire n'importe quoi. N'importe quoi, s'oppose aux Écritures. Je leur dis, je vous interdis de revenir à cette Église. Jamais. Jamais, je ne veux pas vous voir autour de cette Église. D'accord? C'est l'autre extrême. Encore une fois, ce n'est pas parce que je ne les aime pas. Donc, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 6, 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Si vous aviez un chapitre de la Bible à mémoriser cette année, ce serait Romains 6. Si la sanctification, vous dites, je suis triste, j'ai l'impression d'être sur le cruise control, c'est comme tolérant avec certains péchés, puis comme je ne sens pas un zèle dans mon cœur pour poursuivre Christ. Poursuivre ma sanctification. Romains 6, c'est vraiment un chapitre extraordinaire. En plus, il se mémorise bien, honnêtement, parce que Paul est très logique. Fait que le développement de Romains 6 est très, très, très solide. Ça se mémorise assez bien. Une œuvre commencée, mais non achevée dans cette vie. La sanctification, je suis au haut de la page 3, la sanctification atteint toutes les dimensions de la personne, mais elle n'est jamais parfaite ici-bas. Le croyant demeure engagé dans un combat intérieur continuel entre la chair et l'esprit. La corruption restante peut parfois sembler l'emporter pour un temps, mais la nouvelle nature triomphera par la force de l'Esprit de Christ. Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux. Et donc, Jacques va dire, nous bronchons tous de plusieurs manières. Le combat demeure, mais la victoire est assurée. Et vous allez voir, on va insister un peu là-dessus. Il y a deux fausses doctrines en relation avec la sanctification qu'on voit circuler dans certaines églises. Vous allez voir, il va y avoir des modes avec une mauvaise compréhension de la grâce. Dans le fond, tu sais, tu as été justifié. Donc, Dieu ne se préoccupe pas vraiment de ta sanctification. On va appeler ça « hyper grace ». Et ces gens-là sont très inconfortables avec les impératifs du Nouveau Testament. Ces gens-là se disent, l'Ancien Testament, c'était la loi, c'était exigeant, je ne veux rien qui sente la loi. Parce que la loi ne produit pas la vie. Ah, absolument, c'est vrai, la loi ne produit pas la vie. L'Esprit produit la vie, mais l'Esprit produit quelle vie? La vie de la sainteté. La loi pour le chrétien n'est pas inutile. C'est un indicateur, c'est un GPS qui m'aide à voir quand ma chair l'a peut-être emporté ou des endroits où je manquais de discernement. On ne m'a pas encore enseigné là-dessus. Puis je lis les Écritures, puis là, Dieu dit. Là, je suis comme, attends un peu, wow, c'est quoi cette affaire-là? Dieu impose, Dieu commande, la loi est là. C'est un GPS, ça m'aide à avoir du discernement. La loi par elle-même ne peut pas produire la vie. La loi va servir à me condamner. Si la loi est mon juge, je suis condamné. Paul est clair, on vient de le voir dans Romains. Mais une fois que je suis gracié, la loi, waouh, c'est génial. Ça m'aide à avoir du discernement. Ça m'aide à examiner, à regarder où est-ce que je suis, où est-ce que je me situe. Et donc, une fausse doctrine, c'est ce qu'on va appeler le hyper grace, qui dit, pas besoin de voir de fruits dans ta vie. Ces gens-là deviennent hyper tolérants avec le péché. Le souci, c'est que Paul dit, si vraiment tu es très confortable avec le péché, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, c'est une fausse doctrine. À l'autre extrême, il y a ceux qui disent qu'on peut atteindre la perfection ici. Oh, moi, ça fait 32 ans que je ne pêche plus. Mais ça existe, là. D'accord? Dans le fond, là, ce qu'on connaît aujourd'hui à travers le mouvement pentecôtiste avec le baptême de l'Esprit, c'est un résidu, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est un restant d'une doctrine que Wesley avait développée qui disait que tu pouvais, une fois que tu avais cru en Jésus-Christ, vivre des expériences spirituelles tellement fortes avec Dieu que d'expérience en expérience, tu pouvais en venir à atteindre la perfection. Et ce qui reste avec le baptême de l'Esprit, c'est fondamentalement de là que ça vient. Le baptême de l'Esprit se produit au moment de la conversion. Sans l'Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu reçois l'Esprit-Saint, tu es baptisé de l'Esprit. D'accord? C'est la nouvelle naissance. La régénération se produit quand on reçoit l'Esprit-Saint. Maintenant, Wesley avait vécu des expériences et il avait vu des chrétiens vivre des expériences que vous avez peut-être vécues et que j'ai vécues. Je vais les décrire comme ceci. J'avance dans ma vie chrétienne. Il y a un moment où ma vie chrétienne est un peu du laisser-aller. Je vois bien que j'attriste l'esprit. Je poursuis moins la sanctification. Je suis attristé par ça. Et puis, soit par une prédication, soit parce que j'ai pris un temps de jeûne et de prière pour me repentir, soit parce que j'ai lu un bouquin, soit parce que quelqu'un vient me voir, soit parce que je traverse une épreuve terrible, l'Esprit vient faire une œuvre puissante dans ma vie que je peux marquer dans mon histoire. Je peux mettre une date. Parce que un peu comme à ma conversion, pour ceux qui ont vécu la conversion de manière dramatique, comme moi j'ai vécu ma conversion de manière dramatique, il y a un avant puis un après, puis ça se passe une minute avant puis une minute après. C'est pas comme ça pour tout le monde, d'accord? Mais moi, dans mon cas, c'est ça. Mais j'ai aussi des une minute avant puis des une minute après. Un jour, on était dans une conférence, j'étais avec Alexandre Marquis, j'étais avec Nicolas Côtenoir, on écoute une prédication de John Piper, je suis en train de prier, je suis en train d'écouter, je suis attiré par ce qu'il est en train de nous prêcher. On est dans Apocalypse, il parle de toutes les nations de la terre qui vont célébrer l'Évangile dans l'éternité. Je suis bouleversé par le fait que dans ma vie, il n'y a presque pas d'évangélisation. Je suis pasteur de l'Église. Je ne suis pas un modèle. On termine le message. Ce n'est pas John Piper qui prêchait, c'était David Platt. Parce qu'il y a un autre moment avec John Piper que je ne vous raconterai pas, un autre encore. Mais avec David Platt, David termine, puis il dit, prenez un temps pour prier ensemble pour répondre à ce que Dieu a fait comme œuvre dans votre cœur à travers la prédication. Et là, je fonds en larmes, je fais un vœu devant Nicolas puis devant Alexandre Marquis. Je dis, Seigneur, je te donne 2 ans pour que j'annonce l'Évangile régulièrement chaque semaine, autrement, je donne ma démission à l'Église de l'Espoir. C'est pas moi qui est, je suis pas un modèle. Il y a un avant et il y a un après pour moi. Et Dieu a répondu à mon vœu que j'ai fait avec lui. Faites pas trop de vœux, s'il vous plaît. Mais je fais des vœux avec Dieu. J'en ai fait un l'année dernière encore. J'ai fait quelques vœux dans ma vie avec l'Éternel. Mais j'ai fait un vœu à ce moment-là, convaincu par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint. Je me suis engagé avec Dieu, j'ai pris des gens à témoin. J'étais prêt à remettre ma démission. 2 ans, Seigneur. Et Dieu a honoré ça. Parce qu'il voyait ma sincérité. J'étais prêt à faire ce qu'il fallait pour y arriver. Donc, j'ai vécu des moments comme ça. Vous avez peut-être des moments dans votre vie chrétienne, si ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, où vous dites, il y a un avant-après ma conversion, mais il y a un avant-après ça. Il y a un avant-après ça. Puis il y a une expérience puissante qui est là. Wesley voyait dans ça, je vais le dire comme ceci, là, c'est un peu caricatural, mais comme des paliers de sanctification. Et donc, il prétendait, parce qu'il y avait des gens autour de lui, lui-même n'a jamais réclamé ça. Mais il y a des gens qui venaient le voir et disaient, « Oui, bien sûr, j'ai vécu ce que vous avez décrit, et depuis 5 ans, je ne pêche plus. » Et John Wesley croyait à cela. Ce qu'on trouve dans les assemblées Pentecôte, c'est le restant de ça, qui n'est pas plusieurs expériences, mais qui est le baptême de l'Esprit. Si vous allez étudier un petit peu l'origine avec Phoebe Palmer, vous allez voir ça. Et donc, il y a 2 fausses doctrines en relation avec la sanctification. Celle qui dit que la sanctification n'est pas nécessaire, parce que j'ai été justifié, je suis pardonné. Et celle qui dit que je peux en venir à ne plus du tout pécher dans cette vie. Et là, je vais pouvoir avoir l'assurance que moi, je ne pécherai plus parce que je ne suis plus du tout pécheur. D'accord? 2 fausses doctrines. Parce qu'elle est progressive. La sanctification comme prolongement de l'œuvre du salut. Paul Tripp insiste dans son livre sur le fait que la conversion n'est pas le terme ou la fin de la grâce. On n'est pas sauvé puis on passe à autre chose. On est sauvé puis on continue à être sauvé. Je sais que certains ont peur qu'on dise quelque chose de faux à travers ça, mais je veux garder le langage biblique, d'accord? Et donc, on est sauvé et l'œuvre se poursuit ensuite. C'est le commencement d'un parcours de transformation. Dieu ne se contente pas de déclarer son peuple juste. Il veut aussi former en lui une justice réelle. Je reviens avec mon juste du livre des Proverbes, d'accord? Le peuple est déclaré juste à cause de l'œuvre de Christ et Dieu veut produire en lui une justice effective qu'on voit. Les gens devraient dire... Le Yannick que j'ai connu il y a 30 ans n'est pas celui d'aujourd'hui, parce que celui d'aujourd'hui ressemble plus à Christ. Et il devrait pouvoir dire, le Yannick de 2025 n'est pas le même que le Yannick d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement moi qui vais vivre ça, les gens autour de moi doivent le voir. D'accord? Et je sais que ça peut être troublant, puis vous pouvez dire, mais Yannick, c'est décourageant parce que moi, je ne vois pas ça dans ma vie. Bien, si tu es troublé, c'est peut-être correct. C'est peut-être correct. Peut-être que tu as besoin de crier à Dieu. Je veux dire, comme pasteur, j'ai eu des moments où je disais, mais Seigneur, je suis complètement indigne de diriger une église. Je suis indigne de prêcher, Seigneur. Vous comprenez, j'ai pleuré sur mon péché souvent, depuis que je suis pasteur, avant de l'être, bien sûr, mais après aussi. Parce que je désire cette sainteté qui vraiment est effective. Je désire une vie qui, en toute chose, reflète la vie de Christ. Parce que je désire, à chaque seconde, marcher par la puissance de l'Esprit. Et j'y arrive pas. Donc, je bronche de plusieurs manières, n'est-ce pas? Et je me repens. Et je m'appuie sur la grâce. Et je me relève. C'est l'Évangile constamment dans ma vie. La sanctification révèle notre besoin constant de grâce. Je veux juste revenir à 2 petites citations que j'ai sautées rapidement, un tout petit peu plus haut. Dieu ne se satisfait pas simplement de nous déclarer justes. Et ça, c'est Paul Tripp qui dit ça dans son livre. Et la sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend réellement ce qu'il a déclaré que nous sommes en Christ. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas la justification ils poursuivent la justification par leurs œuvres. On va voir ce matin dans Romains 9, le peuple d'Israël poursuivait sa justification par ses origines, par ses œuvres, et en faisant ça, a rejeté Christ, en grande majorité. Et ceux qui ne cherchaient pas à se justifier devant Dieu, ne cherchaient même pas Dieu, ont découvert Dieu, puis ils ont découvert l'Évangile. Donc, je viens au point 2, le caractère profondément humble de la sanctification. La sanctification révèle notre besoin constant de grâce. Le centre de la sanctification n'est pas seulement la délivrance du mal extérieur, mais le sauvetage progressif de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement la pression du monde, les péchés, la culture, les gens qui nous entourent. Non, c'est de cette nature pécheresse, ce vieil homme-là qui... Tu sais, veut se faire entendre, réclame de l'espace, veut nous diriger, veut nous contrôler. Bien, l'œuvre de sanctification, ce n'est pas seulement l'extérieur, le mal extérieur, c'est ce sauvetage progressif de nous-mêmes. Le croyant pardonné, justifié, adopté, c'est de ce qu'on parlait la semaine dernière dans Romains 8 avec Clément, demeure encore marqué par le péché résiduel. Et c'est pour ça que lorsqu'on va examiner quelqu'un, on va dire, est-ce que tu pratiques le péché? Est-ce que tu te complais dans le péché? Là, on va te reprendre sévèrement, ton cœur devrait être troublé. Mais est-ce qu'il y a ce résidu du péché? Et des fois, il s'installe comme une petite habitude. Des fois, il nous surprend. Il nous arrive, j'ai déjà partagé souvent avec l'Église, des moments où tout va bien, puis tout d'un coup, paf, tu pêches. Là, tu es comme scandalisé par toi-même. Tu sais, tu dis, mais arrière de moi, Satan, c'est quoi cette bête-là? Ça vient d'où? Tu ne l'avais pas vu venir, tu ne l'avais pas prémédité. Il n'y avait pas de négligence, c'est pas ça. C'est que c'est encore là. Provoqué, le péché pourrait prendre le contrôle une seconde. Là, je suis scandalisé par ça. Dernièrement, je partageais avec des frères une mauvaise réaction que j'avais eue, puis je leur ai demandé pardon dans la demi-heure. Cette doctrine, troisième phrase au point A, cette doctrine s'oppose donc à toute suffisance spirituelle, à toute autosatisfaction et à toute passivité chrétienne. Donc, je dois m'engager. J'ai un rôle à jouer. Je dois poursuivre. Je dois poursuivre l'œuvre de grâce de Dieu en moi. Je ne peux pas être passif. Le centre principal de la sanctification est le sauvetage continu tout au long de la vie, de nous-mêmes. Dieu nous sauve, nous, de nous, littéralement. Il n'existe tout simplement pas de diplômé de la sanctification, la fausse doctrine dont je parlais tantôt. D'accord? Tu as ton diplôme de saint. Moi, je ne pêche plus depuis 8 ans et 33 jours. Bonjour, je suis... Non. La sanctification ne consiste pas d'abord à accumuler de l'information. Super important. On peut être affûté théologiquement, instruit bibliquement et pourtant spirituellement immature. C'est ça qui est troublant, hein? C'est qu'il y a des gens qui sont de très, 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 très bons enseignants de la parole de Dieu et qui ne sont même pas des enfants de Dieu. Est-ce que c'est possible? Moi, j'avais un ami qui, je croyais qu'il était chrétien, fait qu'on se tenait ensemble. Finalement, il s'avère qu'il n'est pas chrétien, mais il continue à conduire du monde à Jésus. Bon, lui, il se présentait comme un chrétien, mais de toute évidence, il ne l'était pas. Mais il continue à conduire du monde à Jésus. J'ai été impliqué il y a quelques années dans l'examen d'un ami intime à moi qui est, à mon avis, un faux docteur, et qui, toutes les personnes qu'on a interrogées, il avait fait des victimes. Toutes les personnes qu'on a interrogées nous ont tous dit, cette personne-là m'a fait du mal et pourtant, elle m'a aidé à mieux comprendre la Bible. C'est un excellent enseignant de la parole de Dieu. Excellent enseignant de la parole de Dieu. Il n'enseignait pas la vérité dans la pratique de sa vie. On peut être affûté théologiquement, instruit bibliquement et pourtant spirituellement immature. La sanctification concerne la transformation du cœur, du caractère, des affections, c'est-à-dire les désirs, hein, ce qu'on affectionne, des réactions et de la conduite. Elle vise la ressemblance concrète à Jésus-Christ. Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en Jésus-Christ. Je ne serai jamais Christ, mais son caractère est formé en moi. Parce que son esprit habite en moi. C'est l'esprit de Christ qui m'a été donné. C'est intéressant, un argument que Luc développe dans son évangile puis dans le livre des Actes. Si vous êtes peut-être que vous l'avez déjà remarqué, on l'a déjà souligné ici à l'Église souvent, mais dans l'évangile de Luc, Jésus fait les œuvres qu'il fait par la puissance de l'Esprit. La première fois que tu vois ça, c'est comme, un peu, c'est Jésus, là, c'est Dieu. Oui, mais dans son humanité, ce qu'il nous est dit clairement, c'est que c'est par la puissance de l'Esprit qu'il agit. Et ensuite, le livre des Actes, c'est quoi? Mais le même Esprit, l'Esprit de Christ, est donné à l'Église afin que l'Église fasse les œuvres de Jésus et même plus encore. Parce qu'on conduit des millions de personnes à Christ. La sanctification est l'œuvre de Dieu en nous, littéralement. C'est une grâce divine, une responsabilité humaine. Donc, c'est partagé. La sanctification est l'œuvre de Dieu en nous. Les moyens de grâce sont réels. La lecture de la parole, la prière, la prédication, le sacrement, le culte public, le ministère du corps de Christ, c'est-à-dire prendre le servir ensemble, mais aucun de ces moyens n'agit indépendamment de Dieu. Comme pour la justification, le croyant ne peut se sanctifier de lui-même. Donc, c'est possible de faire toutes ces choses-là et de ne pas grandir dans notre sanctification. Parce que c'est une œuvre spirituelle. On le sait, des fois, on fait juste comme suivre la motion. Je vais à l'église, je fais ci, je fais ça. Mais en réalité, il y a un péché énorme qui est caché dans ma vie, qui est là, puis qui est en train de me dévorer de l'intérieur. Et donc, la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais en même temps, il y a des moyens de grâce qui nous sont donnés. J'aime cette expression-là, des moyens de grâce, des moyens par lesquels Dieu vient nous donner sa grâce. J'ai été gracié pour être sauvé, mais je suis transformé encore par l'œuvre de grâce de Dieu en moi. Et donc, lorsqu'on lit les Écritures, puis qu'on lit les Écritures en disant, « Seigneur, je viens te rencontrer, je veux que tu me parles, je veux que tu me reprennes, je veux que tu m'encourages, je veux que tu me conduises dans l'adoration et dans la repentance, ce que tu veux, Seigneur. » Et là, je lis les Écritures, je médite les Écritures. C'est un moyen de grâce. J'ai fait une 46e retraite, je pense, avec mes amis des 3M, il y a quelques semaines. Puis je pense que je l'ai mentionné l'autre fois, mais il y a un moment où je me suis arrêté et j'ai dit, « Les gars, ça me fait tellement du bien d'être avec vous. » Juste parce qu'on prie ensemble, on parle ensemble, j'ai dit, « Ça m'excite à la sainteté. Ça m'excite au bien. » Juste la communion des saints, littéralement. Prier ensemble, des choses... Écoutez, ça fait 46 retraites qu'on fait, là, fait qu'à un moment donné, confesser nos péchés, ça devient quasiment banal. On réinvente pas la roue. À toutes les retraites, on fait la même chose. On lit la Bible, on prie, on lit des livres chrétiens, on se reprend les uns les autres, on se conseille les uns les autres, on confesse ensemble. C'est la même chose qu'on fait. Ça fait 46 fois qu'on fait ça ensemble. Je me suis arrêté à un moment donné, je disais, les gars, ça me fait tellement du bien d'être ici. Là. Parce que c'est un moyen de grâce. Un groupe connexion, c'est un moyen de grâce où je me réunis avec des frères, je suis dans la communion des saints. Je suis en communion avec le peuple de Dieu. C'est beau, hein? Le croyant est appelé à travailler à son salut. L'appel à l'obéissance n'est pas annulé par la souveraineté de la grâce. Hein, c'est un peu comme dans le salut. Personne ne va se sauver de lui-même. Il n'y a personne ici qui est assez beau, assez smart pour que Dieu dise, « Oh, wow, toi, je veux t'avoir dans mon équipe. » Il y a un appel de la grâce, mais je dois répondre. Donc, je suis responsable de répondre à cet appel-là de la grâce. C'est la même chose avec la sanctification. L'Esprit de Dieu est en moi, m'appelle à la sainteté, mais je dois répondre à ça. L'appel à l'obéissance n'est pas annulé par la souveraineté de la grâce. Le croyant doit poursuivre activement tout ce qui lui appartient en Christ. Alors, je pense qu'une des confusions dans laquelle on tombe des fois, c'est qu'on vit des moments... Dans 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, tu vis certains moments à travers des souffrances, comme je disais tantôt, à travers une conférence, un livre, tout ça, où finalement, tu n'as pas fait plus qu'hier, mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vécu des moments comme ça? Et la confusion qu'on a, c'est de penser que ça, c'est la norme de la sanctification. Dans le fond, il faut que j'attende que Dieu, paf, me saisisse un matin, me lève dans mon lit. Là, je fais juste lire la Bible. C'est compulsif. Je fais juste bien agir, tu sais, puisque c'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi. C'est pas présenté comme ça dans les Écritures. On n'est pas des zombies de l'Esprit, là. L'Esprit est en moi et me dit, va dans la prière. Parce que lorsque tu vas dans la prière, tu sais que Dieu est ton Père. Il y a quelque chose en toi qui dit, Abba, Père, Papa. Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'Esprit. Mais l'Esprit ne va pas me prendre, puis me mettre à genoux, puis paf, je tombe à genoux, puis je me mets à prier. Non, c'est pas ça, pas comme ça. Je ne suis pas possédé de l'Esprit. Je suis animé de l'Esprit. Je suis rempli de l'Esprit. Il faut que j'écoute. Et donc, j'ai un rôle à jouer dans ça. Je dois collaborer. C'est ce qui fait que dans Philippiens 2, super beau verset pour comprendre ça, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Hey, ça, c'est quand même du travail, là. C'est pas comme, ouais, aujourd'hui, je pense que ça me tenterait aujourd'hui d'être dirigé par l'Esprit. Non, non, avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est comme, ça a l'air complètement contradictoire, mais en fait, il y a plein d'encouragement dans ça. Applique-toi parce que Dieu veut faire ça en toi. Donc, réponds à l'impulsion de l'Esprit en toi. Dieu veut produire ce fruit-là en toi. Vas-y, applique-toi. C'est le projet de Dieu pour toi aujourd'hui. Le plus grand projet de Dieu pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est de former Christ en lui. Qu'il reçoive une confirmation qu'il a son permis de travail ou qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière avec le pasteur Clément. Dans les deux cas, Clément aurait été au milieu de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dans les deux cas. Parce que le plus grand projet de Dieu pour ta vie, si tu es en Jésus-Christ, c'est de former Christ en toi. Et donc, Philippiens nous dit, bien, vas-y, applique-toi avec crainte et tremblement, parce que c'est ça que Dieu veut faire en toi. C'est vraiment beau, c'est vraiment encourageant. L'assurance du croyant repose sur la fidélité de Dieu. Le croyant est changeant, parfois errant, parfois paresseux, souvent engagé dans une guerre d'adoration. Hein? Notre cœur est porté là, notre cœur est porté là. Puis tu dis, ah, Seigneur, je suis désolé. Ce matin, je me préparais, je m'en venais, puis je dis, Seigneur, donne-moi une vraie passion pour ton royaume. Je veux jusqu'à ma mort que ce soit ton royaume qui me passionne. Je veux chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Je priais ça ce matin. Bien, je priais ça parce que je sentais que mon cœur n'était pas 100% là. Voyez-vous? Donc, le croyant, il est changeant. Il est parfois errant, parfois paresseux, souvent engagé dans une guerre d'adoration, son attention étant distraite de Dieu. Si la sanctification dépendait ultimement de lui, elle n'aboutirait jamais. Encore une fois, on l'a dit, j'ai besoin de l'assistance de Dieu. L'assurance vient de ce que Dieu a commencé l'œuvre et l'amènera à terme. Donc, ma confiance dans ma sanctification vient du fait que quand je vais dans la prière, spontanément, j'ai envie de dire « Abba, Père, Papa ». Ouf, ça vient d'où, ça? C'est l'œuvre que Christ a commencé en moi. Mon assurance vient du fait que, vous savez, des fois, tu conseilles des gens qui disent, « Écoute, je ne sais pas si je suis chrétien, je ne sais pas si j'étais assez sincère, tout ça. » Ouais, mais t'es pas sauvé avec la dose de ta foi. Là, comme Dieu ne mesure pas ta foi dans une balance, puis il dit, « ça ne passe pas comme ça que ça fonctionne. » Aujourd'hui, je t'annonce l'Évangile. Est-ce que tu veux être chrétien? Oui. OK, t'es sauvé. C'est réglé, parce qu'un non-chrétien ne veut pas être sauvé, tu comprends? T'annonces l'Évangile à un non-chrétien, il dit, « Wow, c'est... » Tu sais, parfois, ils vont dire, « Make sense. » Ça a beaucoup de sens, ton affaire. Mais c'est pas pour moi. Ouais, il n'est pas chrétien. Mais tu sais, la prochaine fois que tu parles avec un chrétien qui doute à savoir s'il est chrétien, demande-lui s'il veut accepter l'Évangile tout de suite. S'il dit oui, mais il est chrétien. Si je t'avais posé la question hier, est-ce que tu m'aurais donné la même réponse? Oui, donc tu étais déjà chrétien. Là, ce qui te trouble, c'est autre chose. Hein? Tim Keller... Je l'ai déjà raconté à quelques reprises, Tim Keller aimait dire à un étudiant qui venait le voir à l'université, qui lui disait, écoute, j'ai plein de doutes, je doute de l'existence de Dieu, je ne suis pas certain si Dieu existe, je suis en train de me questionner sur plein de choses. Puis là, il demandait, après l'avoir écouté gentiment, poliment, tout ça, il demandait, est-ce que tu fréquentes une jeune fille? Oui. Est-ce que vous avez des relations sexuelles hors mariage? Repends-toi de ton péché, probablement que tu vas retrouver la foi. Probablement que tes doutes vont s'estomper. C'est intéressant, hein? Intéressant. C'est ça. On laisse un péché s'installer, puis là, comme on ne voit pas la puissance de Dieu dans ce domaine-là parce qu'on tolère un péché, puis là, finalement, on part dans des questions philosophiques. Peut-être que Dieu n'existe pas. Non, repends-toi de ton péché, on s'en reparle après. Donc, je ne serai pas sanctifié si ce n'est pas de l'œuvre de Dieu en moi. Et mon assurance de ma sanctification vient du fait que l'œuvre de Dieu a commencé en moi. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La vie chrétienne est à la fois travail et repos. C'est vrai. On est appelé à se reposer en Christ, puis on est appelé à travailler à notre salut. C'est contradictoire. Un de mes amis, Yves Ferland, me disait, son père lui disait lorsqu'il était jeune, il travaillait dans les couvertures, il faisait des toitures, puis il disait à Michel puis à Yves, il disait, venez-vous-en les petits gars, on va se reposer en travaillant. Je trouve ça vraiment beau, parce que c'est ça qu'on est appelé à faire comme chrétien. On est appelé à se reposer en travaillant notre salut, littéralement. La vie chrétienne est à la fois travail et repos. Le croyant est appelé à une véritable éthique de travail spirituel. Je suis appelé à examiner mon cœur, à aller dans la prière, à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Je prends des temps de confession, pas juste quand il y a comme un gros crayon, là, comme l'autre fois là, quand j'étais avec des frères, puis je suis devenu super défensif, tout ça. Okay, j'avais pas besoin de... Il n'y avait pas beaucoup de soul-searching à faire pour savoir si j'avais péché. J'étais comme confus par mon propre péché. Mais je prends aussi des temps de confession où je m'examine devant Dieu. Je suis en silence, puis je vais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu aujourd'hui qui t'aurait attristé, qui ne serait pas conforme à ta volonté? Puis, Dieu en a toujours un ou deux en réserve pour moi. Si je prends ce temps en silence, il y en a toujours un ou deux qui apparaissent. Je dis, ah, Seigneur, je te demande pardon. Je vais être attentif à ça aujourd'hui. Je portais attention à ça aujourd'hui. Donc, le croyant est appelé à une véritable éthique de travail spirituel, mais il est aussi invité au repos parce que Dieu agit en lui et pour lui. Le travail chrétien n'est donc ni légaliste ni désespéré. Il est soutenu par la grâce présente du Sauveur. Et donc, on est appelé à vivre une vraie joie alors qu'on lutte avec certains péchés. Je suis attristé par mon péché, mais je trouve un repos dans la grâce. Puis je dis, Seigneur, c'est bon. Tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu vas m'aider à lutter avec ça. Je suis repentant. Je suis craintif de tomber encore. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'ai pas confiance en moi. Il faut que j'accélère un petit peu, les amis. La sanctification comme processus de mort et de vie. La mise à mort du péché. Romains 6, Romains 8. Le péché doit être détruit. Il doit être éradiqué. Il doit être mis à mort. Donc, il faut s'y appliquer. D'où l'idée de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et on a des armes qui nous sont données pour faire ça, pour livrer la guerre au péché. Les puritains, John Owen, si jamais ça vous tente de lire un bon livre, il est en français, je ne me rappelle pas du titre en français, vous pourrez le chercher, mais « Overcoming Sin and Temptation » de John Owen. Les puritains ont mis un fort accent sur cette méditation-là de on va appeler ça en français, je pense qu'en français, c'est la mortification de la chair. C'est un drôle de terme. Faire mourir les œuvres de la chair. Il est disponible, Publication chrétienne, je pense, le distribue en français. Une petite plaquette, mais c'est dense. Du John Owen, c'est Paul x 2. Tu lis un bout de phrase, puis tu digestes, puis après ça, tu continues. Mais c'est très, très, très méditatif. Les auteurs comme Paul Tripp, si vous aimez les écrits de Paul Tripp, ce sont des gens qui ont été énormément influencés par les puritains dans leur style d'écriture. C'est juste que c'est plus contemporain comme écriture, c'est plus accessible pour nous. La poursuite de la vie nouvelle en Christ, la sanctification n'est pas seulement négative, elle implique une poursuite active des réalités d'en haut, des bénédictions de la vie nouvelle. Donc, quelqu'un qui poursuit sa sanctification ne devrait pas être un chrétien sombre et ténébreux. Ah oui. Tu sais, on lutte encore beaucoup. Non, le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est pas la tristesse. D'accord? Donc, quand vous voyez des chrétiens là, qui sont super, là, tu sais, comme sombres, puis ils sont toujours en train d'examiner tout le monde, puis s'examiner, personnellement, je vois pas le fruit de l'esprit dans ça. J'ai des moments où je suis profondément découragé de moi-même. Mais ces moments-là sont suivis de repentance et donc de paix et de joie. D'accord? Et donc, ce que je veux, c'est vivre la vie de Christ en moi. Vous comprenez? Lorsque Jésus dit « celui qui vient à moi », il ne dit pas « celui qui vient à moi sera conscient qu'il est une citerne crevassée, un puits sec et desséché ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et donc, la vie chrétienne est appelée à être heureuse, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Les chrétiens ternes et sombres, pessimistes. Naturellement, on est peut-être plus optimiste ou pessimiste, je le dis tout le temps. Moi, je suis naturellement optimiste. Mais tu ne pourras pas me dire, oui, mais écoute, c'est parce que je suis comme ça, moi. Non, non, non. Si tu portes le fruit de l'esprit, il y a de la joie, là. Et je veux en voir. Je veux en voir. Je veux voir le fruit de l'esprit dans ta vie. Ah non, moi, je combats le péché. Correct, fais-le joyeusement, s'il te plaît. Fais-le en chantant des louanges. L'autre jour, le dimanche dernier, je m'en allais à Sorel. Vous allez lire la fin des notes, vous avez compris ça. La semaine dernière, je m'en allais à Sorel. Il y avait un petit peu de neige, hein? On a tous béni le Seigneur. Quand je suis sorti chez moi, j'ai dit, waouh, c'est tellement beau, Seigneur. Là, j'ai embarqué dans ma voiture et j'ai dit, il faut quand même que je passe sur la 30 puis ils vendent beaucoup. Fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la louange. Je me suis mis à prier puis à louer Dieu en m'en allant. Je ne vais pas comme conduire pendant 45 minutes. Je sais, non, mais non. Je m'en vais prêcher la parole. Jésus va me protéger. Chanter des chants de louange. Comprenez? Donc, je lutte pour ma sanctification, mais je le fais joyeusement. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la sérénité, la maîtrise de soi. Le rôle essentiel de l'Esprit-Saint. L'Esprit renouvelle intérieurement. C'est son œuvre, c'est ça qu'il fait. Il nous convainc de péché. Il illumine sa parole pour que sa parole devienne concrète en nous, qu'elle devienne vie en nous. Il nous rend capables d'obéir. J'ai écrit à François et Stéphane, mes deux amis. Des fois, j'ai des questions théologiques que je leur envoie, puis je leur ai dit, c'est une discussion entre 3M. Mais là, je la fais avec vous. D'accord? Fait que j'ai écrit, est-ce que un chrétien devrait passer son temps à dire, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Oui, mais non. Parce que souvent, c'est difficile, ça devient une espèce de justification pour, écoute, j'y arrive pas. Puis ça devrait être une confession. J'y arrive pas, mais par la grâce de Dieu, je peux y arriver. Parce que j'ai l'Esprit Saint en moi. Fait que je donnais des exemples où, pour moi, telle chose n'est pas difficile. Puis vous remarquerez que les domaines qui ne sont pas des combats très forts pour nous, mais on va avoir tendance à juger des frères qui vont dire c'est difficile. Mais là où nous, c'est difficile, mais là, on voudrait de la compassion. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire attention, les chrétiens, à passer notre temps à répéter c'est difficile? C'est difficile de faire preuve de maîtrise de soi. C'est difficile pour le colérique de ne pas se mettre en colère. C'est difficile de se maîtriser avec la nourriture. C'est difficile de se maîtriser avec la pornographie. C'est difficile de se maîtriser avec l'amertume. OK, c'est un combat plus accentué dans ta vie. Mais fais attention de te complaire dans ça, dans ce langage-là qui devient une espèce de justification à « Écoute, je ne suis pas capable. » Parce que je ne suis pas capable, ça, là, on est ailleurs. Là, on est ailleurs. On n'est plus tout à fait dans la sainte doctrine, je ne suis pas capable. Je n'ai pas été capable, je ne me sens pas capable. OK, c'est bon. Je ne suis pas capable. Attends. Non, je ne parle pas de situation où quelqu'un souffre de maladie mentale, puis il vit une psychose, puis il n'est pas en contact avec la réalité. C'est pas ça que je parle. Je parle de péché, d'accord? De lutte avec le péché. Et je ne veux pas être dur. C'est pas qu'on devrait aller dire à tout le monde, c'est pas correct quand tu dis que c'est difficile. Non, non. Aie l'humilité de reconnaître que ça te tente de le dire avec tes péchés à toi. C'est pas ça. C'est juste le questionnement. La loi de Dieu comme instrument de grâce sanctifiante, je l'ai déjà abordé. La loi est pour nous un guide. C'est un révélateur. C'est une manière de dire, est-ce que ma boussole est bien alignée? Parce que j'ai la loi de Christ en moi. Et donc, je peux avancer avec l'Esprit de Dieu. Souvent, je sais ce qui est la bonne chose à faire. Souvent, qui dépasse même la loi parce que c'est l'Esprit de la loi. Hein, quand Jésus vient, il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Mais c'est ça, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, la loi de Christ est en toi. Tu vas faire le mille de plus, tu vas aller plus loin, tu vas dépasser même l'exigence de la loi. Ce n'est pas que la loi n'est pas utile, la loi me permet de dire, est-ce que ma boussole est bien ajustée ou est-ce qu'elle est déréglée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérègle? La loi de Dieu, la parole de Dieu me donne un plus grand discernement. La patience de Dieu et le caractère progressif de la sanctification. C'est un processus, ce n'est pas un événement. Je l'ai abordé. Faites attention de languir après des événements dans votre vie où vous allez faire un bon. Et il va y en avoir, je vous le souhaite de tout cœur. Ça fait du bien. Quand tu dis, OK, Seigneur, tu peux encore opérer des miracles en moi. Oui, mais il y en opère probablement tous les jours, des miracles en toi. C'est juste que, ben, tu sais, quand Clément et Léa priaient pour le permis de travail, puis que ça se passe comme ça s'est passé, ils ne vous ont même pas donné tous les détails, c'est plus extraordinaire qu'extraordinaire. Mais quand ça se produit, c'est le fun. Là, tu l'écris dans ton journal. T'sais. Ce miracle-là, il y a un nom. Mais le fait qu'aujourd'hui, je me plaise à enseigner la parole de Dieu, c'est miraculeux. Je vous le dis parce que ma vieille nature, là, à 5h07, quand c'était le temps de me lever, j'ai dit, c'est passé, ça a été vite de 5 à 5h07. Je serais resté couché ce matin. Mais vraiment, je dis, ah non, j'ai une tâche glorieuse à aller accomplir. Je vais prêcher la parole de Dieu. C'est miraculeux, c'est merveilleux. Mais ce ne sont pas des événements. Il va y avoir des événements, c'est progressif. Et l'attente fait partie de ça. Donc, des fois, on se décourage parce qu'on retombe dans certains péchés, on souffre. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis elle me disait, pourquoi c'est simple pour toi de ne pas garder de l'amertume contre quelqu'un qui te fait du mal, puis de comme classer ça avec l'Évangile, et pour moi, c'est complexe. Je ne sais pas. Je peux poser la même question pour d'autres domaines dans ma vie. Pourquoi ça, c'est simple pour toi et ça ne l'est pas pour moi? Mais je ne sais pas pourquoi. Et je sais que dans ce combat-là quotidien, des fois qu'on va livrer avec le péché, Dieu est en train d'œuvrer. C'est l'attente d'un moment où il y a comme une force nouvelle qui vient. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je me suis converti, j'en voulais beaucoup à mes parents pour le divorce de mes parents. C'est fait quand j'avais à peu près 12 ans. Je me convertis à 19 ans. J'en voulais plus à un de mes deux parents. Je vais dire juste comme ça. Et pendant 3 ans, je passais mon temps à pardonner. Comme je parlais de ce parent-là, je m'entendais parler, puis il y avait de l'amertume. Là, je disais, « Gosh, je pensais que j'avais pardonné. » Je retournais au pied de la croix, puis je disais, « Seigneur, je suis attristé, j'ai vraiment pris le temps de pardonner, tu sais, mais... » Quand je parle de lui, c'est en mal. Je retournais au pied de la croix. À un certain moment donné, ça a pris environ 3 ans, il y a un moment où je m'entends parler de cette personne-là et il y a de la compassion, il y a une certaine pitié, il n'y a plus de mépris. Je dis, aïe, aïe, c'est réglé. Je ne sais pas quand et comment ça s'est passé, mais ces 3 années-là, je les ai trouvées lourdes parce que je disais, « Seigneur, je viens de me convertir, je sais vraiment que tu m'as fait grâce, je veux faire grâce. » Puis j'étais attristé de voir ça qui revenait en moi. Je vais m'arrêter ici, les amis, je suis désolé, je me suis un peu emballé pour le sujet. Il vous reste à lire concernant la vie quotidienne, l'Église locale, le mariage. Le mariage ne contribue pas du tout à la sanctification, tout le monde sait ça. Toute la vie est rendue sainte par la grâce sanctifiante. Donc Dieu transforme tous les domaines de notre vie. Ça devient plus pratique. La difficulté comme instrument majeur de sanctification, les épreuves, les souffrances, Dieu s'en sert énormément pour notre bien. Je l'ai déjà partagé avec l'Église, mais dans mes plus grands moments de souffrance, j'ai généralement la conviction profonde que Dieu est en train de faire quelque chose de beau en moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a accordé ça, mais souvent ça m'est arrivé dans des moments de grande souffrance. En même temps, il y a comme une reconnaissance qui dit, « Seigneur, je sais que tu es en train de former Christ en moi. » Je suis comme confondu entre le désir de ne pas souffrir et ça. Évidemment, toutes les disciplines de la grâce, c'est ça qu'on développe au point 13. Et la sanctification comme réponse au christianisme progressif. Là, vous irez lire, c'est un peu une fausse doctrine qui circule, puis il y a une petite faute de français là, que Paul Tripp voulait adresser. Une redéfinition dangereuse du christianisme. Lorsque le christianisme devient trop thérapeutique, on est en train de s'éloigner de la sanctification. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'outils thérapeutiques qui sont développés dans le monde qui sont extrêmement utiles pour nous. Un bon livre sur la communication, pourquoi pas? Ça aide à comprendre. Tu sais, lorsqu'on m'a expliqué que prendre le temps de refléter à quelqu'un ce qu'il a dit, pour s'assurer qu'ils se sentent écoutés, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, un des premiers versets que ma mère m'a donné à ma conversion, c'est celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais elle m'a donné ce verset-là. Elle trouvait que c'était approprié pour moi. Donc, quand on m'a expliqué, regarde, je vais donner une petite technique en communication, reflète ce qui t'est dit, tu vas vraiment démontrer que tu as écouté, ça te donne le temps de prendre un peu de distance. C'est une technique humaine. D'accord? Le reflet, là, c'est pas simple à montrer avec un verset. Donc, les approches thérapeutiques sont utiles. Et si vous étudiez en counseling biblique, vous allez voir, on en utilise. Mais il faut qu'elles soient profondément fondées, ancrées dans la parole de Dieu, dans une bonne théologie de la sanctification. Autrement, on va se servir de la thérapie au lieu de poursuivre la sanctification. Et là, on peut se mettre à excuser beaucoup de choses sur le péché. Le phénomène de victimisation, toute cette idée que finalement, tu sais, ben, c'est peut-être juste mon ADN qui fait que je suis comme ça. OK, ton ADN en Adam, t'es pécheur, t'es damné, tu t'en vas en enfer. Si on est d'accord là, on peut commencer la conversation. D'accord? Mais c'est ça. Donc, il va aborder cette question-là ici. Je termine avec un mot de prière. J'ai dépassé mon temps. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette belle doctrine de la sanctification. Seigneur, ça me fait du bien moi-même de le revoir, de l'enseigner, de revoir ces choses que j'étudie depuis presque 40 ans. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'Église, merci pour ton esprit surtout qui habite en nous. Donne-nous, Seigneur, de poursuivre activement, consciemment, volontairement cette sanctification, Seigneur. Forme Christ en nous et sois glorifié.